Bienvenue à l'émission qui déclare la grâce souveraine et éternelle de Dieu en Jésus-Christ. L'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix pour les pécheurs que Dieu le Père a ordonné à ce salut. Puisqu'il nous accordait des oreilles pour entendre les attributs glorieux de Jésus-Christ à travers ce message tiré de sa parole inspirée.
Aujourd'hui, je voudrais vous prêcher sur un sujet très important. Il s'agit de l'agneau de Dieu. Nous savons qu'à travers les années, il y avait beaucoup de boucs et d'agneaux qui ont été immolés, mais ces sacrifices ne pouvaient jamais remettre le péché. Ces sacrifices étaient représentants de l'unique sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Alors c'est ainsi que Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu pour annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le premier siècle, son message était simple et clair, et nous voyons ce message dans Jean chapitre 1. Et le verset 29, si nous voulons savoir la signification et l'importance du message que Dieu donne aujourd'hui à ses serviteurs, il suffit de lire ici quel était le message non seulement de Jean-Baptiste, mais selon la Bible de tous les prophètes, de tous ceux que Dieu, depuis Adam, jusqu'à Christ et de Christ jusqu'à maintenant, annonce, c'est voici l'agneau de Dieu. Nous voyons ça dans Jean chapitre 1 et le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'importance de l'œuvre de Christ et son efficacité. Pas seulement couvrir le péché du monde, mais ôter le péché du monde. Alors cela fait poser maintenant la question, est-ce que c'est le péché de tous les êtres humains que Christ a ôté? Ou quelle est la signification d'ôter le péché du monde? Nous savons que si c'était tous les êtres humains, alors on ne lirait plus dans la Bible d'un jour de jugement. Puisque si Christ a ôté le péché, alors il ne devait plus rester de condamnation pour ceux pour qui il a ôté le péché. Et c'est pour ça que nous devons faire attention, parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui annoncent qu'effectivement, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour tous les êtres humains du monde entier. Et alors, si on leur demande, mais pourquoi les pécheurs du monde entier alors ne sont pas sauvés? Ils répondent, c'est parce qu'ils ne croient pas. Alors, il faut se poser la question, si Christ est mort pour tous les péchés du monde sauf l'incrédulité, donc, il n'est pas mort pour tous les péchés du monde. Alors, dans quel sens est-ce que nous devons comprendre ce qui est déclaré ici dans Jean chapitre 1 et le verset 29? D'abord, les Juifs imaginaient que lorsque le Messie serait venu, qu'il allait établir un royaume juif. Donc, pour eux, le Messie devait délivrer les Juifs. Donc, dans les Écritures, quand il s'agit du mot « monde », c'est un mot qui signifie toutes les ethnies. Donc, Christ n'est pas mort simplement pour les Juifs, mais aussi pour les pécheurs du monde entier. Quand c'est écrit « du monde entier », cela veut dire les élus dans le monde entier. Voilà le sens que le livre d'Apocalypse donne à ce mot monde. Apocalypse chapitre 5 et le verset 9, c'est écrit: « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Donc, voilà le sens d'un agneau immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, notez bien, des hommes. La Bible ne dit pas tous les hommes du monde entier, mais des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux. Donc ce n'est pas tous les êtres humains, mais ceux que Dieu lui-même a choisis parmi des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Donc nous devons comprendre que Christ est l'agneau de Dieu et il a versé son sang pour ôter le péché des pécheurs du monde entier. Quel pécheur? Ceux que le Père lui-même a donné à son Fils dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17 et le verset 9. Christ dit, c'est pour eux que je prie. Notez bien, je ne prie pas pour le monde, dans le sens du monde entier, mais pour ceux que tu m'as donné. Et on comprend là que tu m'as donné du monde parce qu'ils sont à toi. Alors c'est un message qui est nécessaire à clarifier aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup qui disent oui, voilà, dans l'évangile selon Jean, le chapitre 1 et le verset 29, la preuve que Christ a donné sa vie pour tous les hommes sans exception. Mais on met la condition, alors il faut croire en Christ pour être sauvé. En ce cas-là, il faut dire que Christ n'a pas ôté le péché du monde entier. Si tel était le cas, même le péché de l'incrédulité, je dirais le plus grand péché de tout, alors il n'a pas payé pour cela. Mais cela va contraire à ce que dit la Bible. Nous savons que si nous sommes sauvés par le sang du Seigneur Jésus, que ce sang a même payé pour notre incrédulité. Autrement, personne ne pouvait être sauvé parce que l'incrédulité règne toujours dans nos cœurs. Même où je vous parle, je dois dire que mon cœur est plein d'incrédulité. Nous sommes comme les disciples, lents à croire tout ce qui est écrit dans cette parole de Dieu, au sujet de Dieu et de son Fils. C'est pourquoi nous doutons, ou bien nous craignons des cas. Pourtant, nous savons que Dieu règne, et rien ne se passe dans ce monde, et rien ne peut toucher un des siens que Dieu lui-même l'a ordonné. Alors pourquoi est-ce que nous devons craindre des événements, des circonstances? Ça, c'est notre nature pécheresse et c'est l'incrédulité qui reste toujours en nous. Donc si Christ est mort pour tous les péchés sauf l'incrédulité, où donc est l'espérance? Je remercie le Seigneur que tel n'est pas le cas, que Christ est mort pour tous les péchés de son peuple qui se trouve dans le monde entier. Nous pouvons dire qu'il est mort pour tous les hommes sans distinction. Il ne distingue pas entre les pécheurs pour décider qu'il va sauver ou bien qu'il va condamner. Dans son choix de sauver des pécheurs, quelle que soit leur origine, leur culture, leur nation, leur langue, le choix été fait selon la volonté souveraine de Dieu depuis l'éternité, pour honorer son Fils, le Seigneur Jésus, qui était là depuis l'éternité comme l'agneau qui devait être immolé. Donc, Dieu, le Père, a assuré que la mort du Seigneur Jésus soit efficace et que tous ceux pour qui il est mort sont déjà sauvés par ce sang. Et maintenant, c'est question seulement qu'ils entendent cette bonne nouvelle de l'Évangile et qu'ils soient attirés à Christ dans la repentance et la foi. C'est Dieu qui donne la foi. Mais le salut est entièrement de Dieu en Jésus-Christ. Alors j'espère que vous voyez, rien n'est plus important pour les pauvres et misérables pécheurs tels que nous sommes, qui ont besoin d'être régénérés par l'Esprit de Dieu pour contempler l'œuvre de Christ et ce qu'il a accompli comme l'agneau de Dieu. Notez bien, il est l'agneau unique, en contraste avec la multitude des millions, des milliers d'agneaux qui ont été immolés, mais qui ne pouvaient jamais ôter le péché. Voilà l'agneau de Dieu, en tant qu'homme, Dieu dans la chair, qui est mort et qui a versé son sang pour satisfaire à la justice de Dieu le Père. Donc, des pauvres et misérables pécheurs qui sont régénérés dans le monde trouvent dans ce message un encouragement parce qu'ils savent qu'ils sont pécheurs. Mais quelle bonne nouvelle d'entendre que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs tels que je suis et dont je suis le premier. C'est Christ seul en tant que l'agneau de Dieu qui avait le pouvoir d'effacer les péchés de son peuple et qui les a effacés, effectivement. Il n'y a pas d'autre remède que Christ et son sang versé. C'est pourquoi il est appelé ici l'agneau de Dieu dans Jean 1 et le verset 29. Mais pourquoi l'agneau de Dieu est-il le seul remède? Parce que c'est lui seul qui a expié tous les péchés de son peuple par ce sacrifice à la croix. Si quelqu'un me demande quand est-ce que mes péchés ont été pardonnés, ce n'est pas au moment où j'ai contemplé Christ par l'Esprit de Dieu et mes yeux étaient ouverts, que mes péchés étaient pardonnés. Il y a beaucoup qui prêchent comme si le pardon des péchés est conditionné sur la confession du pécheur. Mais non. Le pardon du péché a eu lieu à la croix, parce que c'est là, par sa mort, que Christ a effectivement expié tous les péchés de ce peuple que le Père lui a donné par son sacrifice à la croix. Jean-Baptiste n'avait certes pas encore vu cela se réaliser lorsqu'il a annoncé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais il affirmait avec assurance que l'agneau était déjà en train d'ôter les péchés. Parce que la manière que c'est écrit qui ôte le péché démontre que l'action a déjà commencé. Donc on peut se poser la question, mais comment est-ce que les péchés étaient ôtés avant même que Christ ne soit mort à la croix? C'est parce que le péché était déjà mis à la charge de cet unique parfait substitut en tant que porteur du péché, mais il faut savoir qu'il fallait toujours sa mort pour que ça soit accompli, effectivement. Donc la charge du péché mise sur le Seigneur Jésus, et à sa mort, alors, il a payé entièrement le prix de ce péché. Même l'agneau pascal de l'Ancien Testament, qui était une image du Seigneur Jésus-Christ, devait d'abord être inspecté et trouvé sans défaut, ni tache. Lorsque vous lisez dans Exode chapitre 12 et le verset 5, toutes les conditions, toutes les exigences de l'agneau pascal de l'Ancien Testament préfiguraient le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est en train de dire que Dieu déjà, et cela depuis l'éternité, inspectait son Fils, ayant attribué à Christ la charge et la culpabilité de ce peuple qu'il devait sauver. Donc il portait déjà cette charge dans son obéissance parfaite. Il fallait que Christ lui-même obéisse parfaitement à la loi avant de rendre sa vie en sacrifice. Et cela parce que l'agneau devait être sans péché. Dans Exode chapitre 12 et le verset 5, nous lisons, ce sera un agneau sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Mais il devait être observé pour s'assurer que cet agneau était en effet sans défaut. Et Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1 et le verset 19, fait cette comparaison, le sang précieux de Christ est comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, lorsque Jean-Baptiste annonçait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est en train d'annoncer que Christ déjà vivait sous la loi, et il accomplissait toutes les exigences de la loi à l'égard du péché. Ça, c'était nécessaire d'abord, avant même qu'il ne donne sa vie. Au cours de sa vie, le Seigneur Jésus a démontré cette parfaite obéissance qu'exigeait la justice de son Père. Et par son obéissance, il satisfaisait déjà aux exigences de la loi que nous, les élus, ceux que Dieu le Père avait déjà donné à son Fils depuis l'éternité, Christ était en train de porter ses péchés déjà dans son obéissance à la loi, d'une manière que nous n'avons jamais pu respecter. Il s'est chargé seul de cette dimension de la malédiction de nos péchés, lesquels exigeaient non seulement qu'il obéisse aux préceptes de la loi, mais aussi qu'il donne sa vie pour en payer le prix. Alors c'est pourquoi l'apôtre Pierre aussi dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 24 a écrit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Notez bien que la justice ne dépend pas de nous, mais c'est Christ qui a accompli cette justice dans sa vie parfaite, mais aussi son obéissance jusqu'à la mort, pour payer la dette, afin que, par ses meurtrissures, Notez comment Pierre le dit, vous avez été guéri. Ce n'est pas que nous sommes en train d'être guéris, mais face à la loi de Dieu, face à sa justice, face à sa sainteté, si Christ a payé notre dette, cela veut dire alors qu'il n'y a plus de condamnation. Nous sommes guéris. Le sacrifice de Christ est d'une telle efficacité qu'il n'est plus besoin qu'il soit le porteur du péché. Il a expié le péché de ses élus une fois pour toutes. Nous voyons ça clairement annoncé dans l'Épître aux Hébreux et le chapitre 10 et le verset 10 et 14. C'est écrit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, mis à part déjà à la sainteté. Notez bien comment, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et puis encore dans le verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà comment les péchés sont ôtés par l'obéissance parfaite du Seigneur Jésus-Christ et par la satisfaction aux exigences de la loi par son sang versé. Pour ces pécheurs-là que le Père lui a donné. Donc, il faut que Dieu nous donne des yeux pour voir cet agneau, l'œil de la foi. Regarde l'agneau comme le seul remède. C'est Dieu qui donne ses yeux pour voir. Laissé à nous-mêmes, on ne pouvait jamais contempler l'agneau de Dieu. Mais pour ainsi voir l'agneau de Dieu, il faut des yeux que Dieu donne par son esprit. C'est lui qui donne ses yeux pour contempler. Et c'est uniquement lorsque l'esprit lui-même ouvre le cœur pour révéler Christ dans le cœur que nous sommes rendus capables de l'appréhender en tant qu'agneau de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Les gens du monde sont nés dans ce monde aveugles en ce qui concerne la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et il faut que l'Esprit de Dieu, à travers la prédication de l'Évangile, leur ouvre les yeux. C'est pourquoi je prêche l'Évangile, parce que je sais que c'est le moyen que Dieu a ordonné pour que des pécheurs élus, des pécheurs rachetés, soient convertis. Et c'est pourquoi je peux maintenant prêcher cet évangile avec confiance, quelle que soit la haine du monde contre ce message qui donne toute la gloire à Jésus-Christ. C'est le message, voici l'agneau de Dieu, que Dieu bénit pour ouvrir les yeux de ses élus. Le péché des rachetés du Seigneur a été mis hors de la vue de Dieu, complètement effacé. Et il faut noter aussi, si le péché des rachetés a été mis hors de la vue de Dieu, il est également hors de notre vue lorsque nous contemplons l'agneau. C'est pourquoi il faut la grâce de Dieu pour regarder uniquement à l'agneau de Dieu. Puisse le Seigneur nous donner des yeux pour regarder uniquement et toujours à l'agneau de Dieu. Christ, l'agneau de Dieu, est le sujet de toutes les Écritures et nous ne devons pas l'ignorer. Par exemple, dans Genèse chapitre 4 et le verset 4, nous avons l'agneau typifié. Et puis en Genèse chapitre 22 et le verset 8, nous avons l'agneau prophétisé dans Exode chapitre 12 et les versets 5 à 7. nous avons l'agneau immolé. Et puis Ésaïe, chapitre 53, du verset 1 à 7, nous avons l'agneau de Dieu personnifié, représenté comme une personne, un homme. Et puis ici, dans Jean, chapitre 1 et le verset 29, nous avons l'agneau de Dieu identifié. À partir de maintenant, nous ne devons pas douter que cet agneau s'agit du Seigneur Jésus. Et puis dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 6 et 13, nous avons l'agneau de Dieu magnifié et glorifié. Alors, c'est le message de toutes les Écritures. Malheureusement, il y a aujourd'hui beaucoup qui prêchent et on doit poser la question comme Isaac a dû poser à son père Abraham lorsqu'ils montaient tous les deux sur la montagne de Morija pour offrir un holocauste à Dieu le sacrifice. Et en s'approchant, Isaac a posé la question à son père dans le verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Voilà la question que nous devons poser chaque fois que nous écoutons un message de la part d'un prédicateur. Où est l'agneau ? Aujourd'hui, dans les prédications, nous voyons beaucoup de feu dans l'émotion des prédicateurs, et il faut dire du bois. Souvent, les messages prêchés sont aussi secs qu'un bois qui est prêt à être allumé par le feu. On peut avoir beaucoup de bonnes illustrations et l'esquisse bien préparée pour un message, et même la présentation comme un feu qui allume les émotions des gens, mais tout cela ne signifie rien si l'agneau de Dieu, comme étant immolé pour les péchés du peuple que Dieu a choisi, n'est pas prêché. Où est l'agneau? À part l'agneau, il n'y a pas de salut. Donc, que nous prenons courage, nous qui sommes au Seigneur, de lire la Bible et d'écouter, quoi qu'il soit peu, ceux qui prêchent fidèlement, comme Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas d'autre remède que ça pour des pécheurs tels que nous sommes. Et je remercie le Seigneur de m'avoir révélé cet agneau par sa grâce. Ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de la grâce de Dieu. Et nous voyons comme Jean-Baptiste qui a annoncé cet agneau, que c'était un agneau sans tache, sans péché, et son sacrifice était efficace pour ôter le péché des pécheurs du monde entier. Pas seulement couvrir le péché, ou bien donner une opportunité pour le pardon du péché, non. En Christ et son sang, le pardon est déjà effectué. Telle est l'efficacité du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, et c'est ça que Dieu bénit pour le salut de son peuple partout dans le monde où il se trouve.
Vous venez d'écouter un message qui vous a été présenté par Ken Wymer, prédicateur de l'Évangile de la grâce de Dieu aux États-Unis. Pour plus d'informations sur le message ou d'autres renseignements, veuillez visiter notre site sur l'internet www.shreve.com. grace.org.